Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Section 14 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 14. La lampe juive. Chapitre 1. Suite. Deux jours s'écoulèrent, vides d'incidents, mais où Sholmès poursuivit sa besogne avec un soin minutieux et un amour-propre qu'exaspérait le souvenir de cette audacieuse agression, exécutée sous ses yeux, en dépit de sa présence et sans qu'il en pût empêcher le succès. Infatigable, il fouilla l'hôtel et le jardin, s'entretint avec les domestiques et fit de longues stations à la cuisine et à l'écurie. Et bien qu'il ne recueillît aucun indice qui l'éclaira, il ne perdait pas courage. « Je trouverai, » pensa-t-il, « et c'est ici que je trouverai. Il ne s'agit pas, comme dans l'affaire de la dame blonde, de marcher à l'aventure et d'atteindre, par des chemins que j'ignorais, un but que je ne connaissais pas. Cette fois, je suis sur le terrain même de la bataille. L'ennemi n'est plus seulement l'insaisissable et invisible Lupin, c'est le complice en chair et en os qui vit et qui se meut dans les bornes de cet hôtel. Le moindre petit détail, et je suis fixé. » Ce détail, dont il devait tirer de telles conséquences, et avec une habileté si prodigieuse que l'on peut considérer l'affaire de la lampe juive comme une de celles où éclate le plus victorieusement son génie de policier, ce détail, ce fut le hasard qui le lui fournit. L'après-midi du troisième jour, comme il entrait dans une pièce située au-dessus du boudoir et qui servait de salle d'étude aux enfants, il trouva Henriette, la plus petite des sœurs. Elle cherchait ses ciseaux. « Tu sais, dit-elle à Sholmès, j'en fais aussi des papiers comme celui que tu as reçu l'autre soir. »«
L'autre soir ?»«
Oui, à la fin du dîner. Tu as reçu un papier avec des bandes dessus. Tu sais, un télégramme. Eh bien, j'en fais aussi, moi. »
Elle sortit. Pour tout autre, ses paroles ne se rien signifiaient que l'insignifiante réflexion d'un enfant. Et Sholmès, lui-même, les écouta d'une oreille distraite et continua son inspection. Mais tout à coup, il se mit à courir après l'enfant dont la dernière phrase le frappait subitement. Il la rattrapa au haut de l'escalier et lui dit « Alors, toi aussi, tu colles des bandes sur papier ?»
Henriette, très fière, déclara « Mais oui, je découpe des mots et je les colle. »
« Et qui t'a montré ce petit jeu ?»
« Mademoiselle, ma gouvernante, je lui en ai vu faire autant. » Elle prend des mots sur des journaux et les colle.
« Et qu'est-ce qu'elle en fait ?»«
Des télégrammes, des lettres qu'elle envoie. »
Herlock Sholmès rentra dans la salle d'études, singulièrement intrigué par cette confidence et s'efforçant d'en extraire les déductions qu'elle comportait. Des journaux, il y en avait un paquet sur la cheminée. Il les déplia. Il vit en effet des groupes de mots ou des lignes qui manquaient, régulièrement et proprement enlevées. Mais il lui suffit de lire les mots qui précédaient ou qui suivaient pour constater que les mots qui manquaient avaient été découpés au hasard des ciseaux par Henriette, évidemment. Il se pouvait que, dans la liasse des journaux, il y en eût un que mademoiselle eût découpé elle-même. Mais comment s'en assurer? Machinalement, Herlock feuilleta les livres de classe empilés sur la table, puis d'autres qui reposaient sur les rayons d'un placard. Et soudain, il eut un cri de joie.
Dans un coin de ce placard, sous de vieux cahiers amoncelés, il avait trouvé un album pour enfants, un alphabet orné d'images, et à l'une des pages de cet album, un vide lui était apparu. Il vérifia. C'était la nomenclature des jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, etc. Le mot samedi manquait. Or, le vol de la lampe juive avait eu lieu dans la nuit d'un samedi. Herlock éprouva ce petit serrement du cœur qui lui annonçait toujours de la manière la plus nette qu'il avait touché au nœud même d'une intrigue. Cette étreinte de la vérité, cette émotion de la certitude ne le trompait jamais. Fiévreux et confiant, il s'empressa de feuilleter l'album. Un peu plus loin, une autre surprise l'attendait. C'était une page composée de lettres majuscules, suivie d'une ligne de chiffres. 9 de ces lettres et 3 de ces chiffres avaient été enlevés soigneusement. Sholmès les inscrivit sur son carnet, dans l'ordre qu'il eût occupé, et obtint le résultat suivant. C-D-E-H-N-O-P-R-Z-2-3-7. « Fichtre !» murmura-t-il. « À première vue, cela ne signifie pas grand-chose. » Pouvait-on, en mêlant ces lettres et en les employant toutes, former un ou deux ou trois mots complets ? Sholmès le tenta vainement. Une seule solution s'imposait à lui, qui lui revenait sans cesse sous son crayon et qui, à la longue, lui parut la véritable, aussi bien parce qu'elle correspondait à la logique des faits que parce qu'elle s'accordait avec les circonstances générales. Étant donné que la page de l'album ne comportait qu'une seule fois chacune des lettres de l'alphabet, il était probable, il était certain, qu'on se trouvait en présence de mots incomplets et que ces mots avaient été complétés par des lettres empruntées à d'autres pages. Dans ces conditions, et sauf erreur, l'énigme se posait ainsi. Répond REPOND.Z CH 237. Le premier mot était clair. Répondez. Un E manquant, parce que la lettre E, déjà employée, n'était plus disponible. Quant au second mot inachevé, il formait indubitablement, avec le nombre 237, l'adresse que donnait l'expéditeur au destinataire de la lettre. On proposait d'abord de fixer le jour au samedi et l'on demandait une réponse à l'adresse ch.237. Ou bien ch.237 était une formule de poste restante, ou bien les lettres ch faisaient partie d'un mot incomplet. Sholmès feuilleta l'album. Aucune autre découpure n'avait été effectuée dans les pages suivantes. Il fallait donc, jusqu'à nouvel ordre, s'en tenir à l'explication trouvée. « C'est amusant, n'est-ce pas ?» Henriette était revenue. Il répondit. « Si, c'est amusant. Seulement, tu n'as pas d'autres papiers ? Ou bien des mots déjà découpés et que je pourrais coller ?»«
Des papiers ? Non. Et puis, mademoiselle ne serait pas contente. »«
Mademoiselle ?
Oui, elle m'a déjà grondé. »«
Pourquoi ?»
« Parce que je vous ai dit des choses, et qu'elle dit qu'on ne doit jamais dire des choses sur ceux qu'on aime bien. »«
Tu as absolument raison. » Henriette sembla ravie de l'approbation, tellement ravie qu'elle tira d'un menu sac de toile, épinglé à sa robe, quelques loques, 3 boutons, 2 morceaux de sucre, et finalement un carré de papier qu'elle tendit à Sholmès.
« Tiens, je te le donne tout de même. C'était un numéro de fiacre. » Le 8279.
D'où vient-il, ce numéro ?
Il est tombé de son porte-monnaie.
Quand ?
Dimanche, à la messe, comme elle prenait des sous pour la quête.
Parfait. Et maintenant, je vais te donner le moyen de ne pas être grondé.
Ne dis pas à mademoiselle que tu m'as vu.
Sholmès s'en alla trouver M. d'Imbleval et nettement l'interrogea sur mademoiselle. Le baron eut un haut-le-corps.
« Alice de moi ? Est-ce que vous penseriez ?
C'est impossible. Depuis combien de temps est-elle à votre service ?
Un an seulement, mais je ne connais pas de personne plus tranquille et en qui j'ai plus de confiance. »
Comment se fait-il que je ne l'ai pas encore aperçu ? Elle s'est absentée 2 jours. Et actuellement?
Dès son retour, elle a voulu s'installer au chevet de votre amie. Elle a toutes les qualités de la garde-malade. Douce, prévenante. Monsieur Wilson en paraîtait enchanté.
Ah, fit Sholmès, qui avait complètement négligé de prendre des nouvelles du vieux camarade.
Elle réfléchit et s'informa. Et le dimanche matin, est-elle sortie?
Le lendemain du vol?
Oui.
Le baron appela sa femme et lui posa la question. Elle répondit. Mademoiselle est partie, comme à l'ordinaire, pour aller à la messe de 11 heures avec les enfants.
Mais auparavant?
Auparavant? Non. Ou plutôt, mais j'étais si bouleversé par ce vol.
Cependant, je me souviens qu'elle m'avait demandé la veille l'autorisation de sortir le dimanche matin, pour voir une cousine de passage à Paris, je crois.
Mais je ne suppose pas que vous la soupçonniez.
Certes, non. Cependant, je voudrais la voir.
Il monta jusqu'à la chambre de Wilson. Une femme, vêtue comme les infirmières, d'une longue robe de toile grise, était courbée sur le malade et lui donnait à boire. Quand elle se tourna, Sholmès reconnut la jeune fille qui l'avait abordée devant la gare du Nord. Il n'y eut pas entre eux la moindre explication. Alice Demun sourit doucement, de ses yeux charmants et graves, sans aucun embarras. L'anglais voulut parler, ébaucha quelques syllabes et se tut. Alors elle reprit sa besogne, évolua paisiblement sous le regard étonné de Sholmès, remua des flacons, déroula et roula des bandes de toile, et de nouveau lui adressa son clair sourire. Il pivota sur ses talons, redescendit, avisa dans la cour l'automobile de M. d'Imbleval, s'y installa et se fit mener à Levallois, au dépôt des voitures dont l'adresse était marquée sur le bulletin de fiacre livré par l'enfant. Le cocher Dupré, qui conduisait le 8279 dans la matinée du dimanche, n'étant pas là, il renvoya l'automobile et attendit jusqu'à l'heure du relais. Le cocher Dupré racontait qu'il avait en effet chargé une dame aux environs du parc Monceau, une jeune dame en noir qui avait une grosse violette et qui paraissait très agitée.
Elle portait un paquet?
Oui, un paquet assez long.
Et vous l'avez menée?
Avenue des Ternes, au coin de la place Saint-Ferdinand. Elle y est restée une dizaine de minutes, et puis on s'en est retourné au parc Monceau.
Vous reconnaîtriez la maison de l'avenue des Ternes?
Parbleu! Faut-il vous y conduire?
Tout à l'heure. Conduisez-moi d'abord au 36 quai des Orfèvres.
À la préfecture de police, il eut la chance de rencontrer aussitôt l'inspecteur principal Ganimard.
Monsieur Ganimard, vous êtes libre?
S'il s'agit de Lupin, non.
Il s'agit de Lupin.
Alors je ne bouge pas.
Comment vous renoncez?
Je renonce à l'impossible. Je suis là d'une lutte inégale où nous sommes sûrs d'avoir le dessous. C'est lâche, c'est absurde, tout ce que vous voudrez, je m'en moque. Lupin est plus fort que nous. Par conséquent, il n'y a qu'à s'incliner.
Je ne m'incline pas.
Il vous inclinera, vous comme les autres.
Eh bien, c'est un spectacle qui ne peut manquer de vous faire plaisir.
Ah, ça, c'est vrai, dit Ganimard ingénument. Et puisque vous n'avez pas votre compte de coups de bâton, allons-y.
Tous deux montèrent dans le fiacre. Sur leur ordre, le cocher les arrêta un peu avant la maison et de l'autre côté de l'avenue, devant un petit café à la terrasse duquel ils s'assirent, entre les lauriers et des fusains. Le jour commençait à baisser.
« Garçon, fit Sholmès, de quoi écrire ?»
Il écrivit, et, rappelant le garçon, « Portez cette lettre au concierge de la maison qui est en face. C'est évidemment l'homme en casquette qui fume sous la porte cochère. » Le concierge accourut, et, Ganimard, ayant décliné son titre d'inspecteur principal, Sholmès demanda si, le matin du dimanche, il était venu une jeune dame en noir.
« En noir, oui. » Vers 9 heures, celle qui monte au second.
Vous la voyez souvent?
Non, mais depuis quelque temps davantage.
La dernière quinzaine, presque tous les jours.
Et depuis dimanche?
Une fois seulement, sans compter aujourd'hui.
Comment? Elle est venue?
Elle est là.
Elle est là?
Voilà bien 10 minutes.
Sa voiture attend sur la place Saint-Ferdinand comme d'habitude. Elle, je l'ai croisée sous la porte.
Et quel est ce locataire du second?
Il y en a deux. Une modiste, Mademoiselle Langeais, et un monsieur qui a loué deux chambres meublées depuis un mois sous le nom de Bresson.
Pourquoi dites-vous sous le nom?
Une idée à moi que c'est un nom d'emprunt. Ma femme fait son ménage. Eh bien, il n'y a pas deux chemises avec les mêmes initiales.
Comment vit-il?
Oh, dehors presque. Des trois jours, il ne rentre pas chez lui.
Est-il rentré dans la nuit de samedi à dimanche?
Dans la nuit de samedi à dimanche? Écoutez voir, que je réfléchisse.
Oui, samedi soir, il est rentré, il n'a pas bougé.
Et quelle sorte d'homme est-ce?
Ma foi, je ne saurais dire. Il est si changeant. Il est grand, il est petit, il est gros, il est fluet, brun et blond. Je ne le reconnais toujours pas.
Ganimard et Sholmès se regardèrent.
C'est lui, murmura l'inspecteur. C'est bien lui.
Il y eut vraiment chez le vieux policier un instant de trouble qui se traduisit par un bâillement et par une crispation de ses deux poings. Sholmès aussi, bien que plus maître de lui, sentit une étreinte au cœur.
« Attention, dit le concierge, voici la jeune fille. »
Mademoiselle, en effet, apparaissait au seuil de la porte et traversait la place.
« Et voici M. Bresson. »«
M. Bresson ?
Lequel ?
Celui qui porte un paquet sous le bras. »
« Mais il ne s'occupe pas de la jeune fille, elle regagne seule sa voiture. »«
Ah, ça, je ne les ai jamais vus ensemble. »
Les deux policiers s'étaient levés précipitamment. À la lueur des réverbères, ils reconnurent la silhouette de Lupin, qui s'éloignait dans une direction opposée à la place.
« Qui préférez-vous suivre ? » demanda Ganimard.
« Lui, parbleu, c'est le gros gibier. »«
Alors moi, je file la demoiselle, » proposa Ganimard.
« Non, non, » dit vivement l'anglais, qui ne voulait rien dévoiler de l'affaire à Ganimard, « la demoiselle, je sais où la retrouver. Ne me quittez pas. »
À distance, et en utilisant l'abri momentané des passants et des kiosques, ils se mirent à la poursuite de Lupin. Poursuite facile d'ailleurs, car il ne se retournait pas et marchait rapidement, avec une légère claudication de la jambe droite, si légère qu'il fallait l'œil exercé d'un observateur pour l'apercevoir. Ganimard dit.
Il fait semblant de boiter.
Et il reprit. Ah, si l'on pouvait ramasser deux ou trois agents et sauter sur notre individu, nous risquons de le perdre.
Mais aucun agent ne se montra avant la porte des Ternes, et, les fortifications franchies, il ne devait plus escompter le moindre secours.
Séparons-nous, dit Sholmès. L'endroit est désert.
C'était le boulevard Victor Hugo. Chacun d'eux prit un trottoir et s'avança selon la ligne des arbres. Ils allèrent ainsi pendant 20 minutes, jusqu'au moment où Lupin tourna sur la gauche et longea la Seine. Là, ils aperçurent Lupin qui descendait au bord du fleuve. Il y resta quelques secondes sans qu'il leur fût possible de distinguer ses gestes, puis il remonta la berge et revint sur ses pas. Ils se collèrent contre les piliers d'une grille. Lupin passa devant eux. Il n'avait plus de paquet. Et comme il s'éloignait, un autre individu se détacha d'une encoignure de maison et se glissa entre les arbres.
Sholmès dit à voix basse.
Il a l'air de le suivre aussi, celui-là.
Oui, il me semble déjà le voir en allant.
La chasse recommença, mais compliquée par la présence de cet individu.
Lupin reprit le même chemin, traversa de nouveau la porte des Ternes et rentra dans la maison de la place Saint-Ferdinand.
Le concierge fermait lorsque Ganimard se présentait.
« Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?»«
Oui, j'éteignais le gaz de l'escalier. Il a poussé le verrou de sa porte. »«
Il n'y a personne avec lui ?»«
Personne. Aucun domestique. Il ne mange jamais ici. »«
Il n'existe pas d'escalier de service ?»«
Non. »
Ganimard dit à Sholmès, « Le plus simple est que je m'installe à la porte même de Lupin, tandis que vous allez chercher le commissaire de police de la rue de Mour. » « Je vais vous donner un mot. »
Sholmès objecta.
« Et s'il s'échappe pendant ce temps ?»«
Puisque je reste. »
« Un contre un, la lutte est inégale avec lui. »
« Je ne puis pourtant pas forcer son domicile. Je n'en ai pas le droit, la nuit surtout. »
Sholmès haussa les épaules. « Quand vous aurez arrêté Lupin, on ne vous chicanera pas sur les conditions de l'arrestation. » D'ailleurs, quoi? Il s'agit tout au plus de sonner. Nous verrons alors ce qui se passera. »
Ils montèrent. Une porte à deux battants s'offrait à gauche du palier. Ganimard sonna. Aucun bruit. Il sonna de nouveau. Personne. « Entrons, » murmura Sholmès. « Oui, allons-y. » Pourtant, ils demeurèrent immobiles, l'air irrésolu, comme des gens qui hésitent au moment d'accomplir un acte décisif. Ils redoutaient d'agir, et il leur semblait soudain impossible qu'Arsène Lupin fût là, si près d'eux, derrière cette cloison fragile qu'un coup de poing pouvait abattre. L'un et l'autre, ils le connaissaient trop, le diabolique personnage, pour admettre qu'il se laissa pincé aussi stupidement. « Non, non, mille fois non, il n'était plus là. » Par les maisons contiguës, par les toits, par telle issue convenablement préparée, il avait dû s'évader, et une fois de plus, c'est l'ombre seule de Lupin qu'on allait étreindre. Ils frissonnèrent. Un bruit imperceptible, qui venait de l'autre côté de la porte, avait comme effleuré le silence. Et ils eurent l'impression, la certitude, que tout de même il était là, séparé d'eux par la mince cloison de bois, et qu'il les écoutait, qu'il les entendait. Que faire ? La situation était tragique. Malgré leur sang-froid de vieux routiers de police, une telle émotion les bouleversait qu'ils s'imaginaient percevoir les battements de leur cœur. Du coin de l'œil, Ganimard consulta Sholmès. Puis, violemment de son poing, il ébranla le battant de la porte. Un bruit de pas, maintenant, un bruit qui ne cherchait plus à se dissimuler. Ganimard secoua la porte. D'un élan irrésistible, Sholmès, l'épaule en avant, l'abattit, et tous deux se ruèrent à l'assaut. Ils s'arrêtèrent net. Un coup de feu avait retenti dans la pièce voisine. Un autre encore, et le bruit d'un corps qui tombait. Quand ils entrèrent, ils virent l'homme étendu, la face contre le marbre de la cheminée. Il eut une convulsion. Son revolver glissa de sa main. Ganimard se pencha et tourna la tête du mort. Du sang la couvrait, qui giclait de deux larges blessures, l'une à la joue, l'autre à la tempe. « Il est méconnaissable, » murmura-t-il. « Parbleu, » fit Sholmès, « ce n'est pas lui. »« Comment le savez-vous? Vous ne l'avez même pas examiné. » L'anglais ricana. « Pensez-vous donc qu'Arsène Lupin est homme à se tuer? Pourtant, nous avions bien cru le reconnaître dehors. Nous avions cru, parce que nous voulions croire. Cet homme nous obsède. » Alors, c'est un de ses complices? Les complices d'Arsène Lupin ne se tuent pas. Alors, qui est-ce? Ils fouillèrent le cadavre. Dans une poche, Sherlock Sholmès trouva un portefeuille vide. Dans une autre, Ganimard trouva quelques louis. Au linge, point de marque. Aux vêtements, non plus. Dans les malles, une grosse malle et deux valises, rien que des effets. Sur la cheminée, un paquet de journaux. Ganimard les déplia. Tous parlaient du vol de la lampe juive. Une heure après, lorsque Ganimard et Sholmès se retirèrent, ils n'en savaient pas plus sur le singulier personnage que leur intervention avait acculé au suicide. Qui était-ce? Pourquoi s'était-il tué? Par quel lien se rattachait-il à l'affaire de la lampe juive? Qui l'avait filé au cours de sa promenade? Autant de questions, aussi complexes les unes que les autres, autant de mystères. Alors Sholmès se coucha de fort mauvaise humeur. À son réveil, il reçut un pneumatique ainsi conçu. Arsène Lupin a l'honneur de vous faire part de son tragique décès en la personne du sieur Bresson, et vous prie d'assister à ses convois, services et enterrements qui auront lieu aux frais de l'État jeudi le 25 juin.
Fin de la section 14. Section 15 de Arsène Lupin contre Sherlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Sherlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 15. La lampe juive. Chapitre 2.
« Voyez-vous, mon vieux camarade, disait Sholmès à Wilson, en brandissant le pneumatique d'Arsène Lupin, ce qui m'exaspère dans cette aventure, c'est de sentir continuellement posé sur moi l'œil de ce satané gentleman. Aucune de mes pensées les plus secrètes ne lui échappe. J'agis comme un acteur dont tous les pas sont réglés par une mise en scène rigoureuse, qui va là et qui dit cela, parce que le voulut ainsi une volonté supérieure.
Comprenez-vous, Wilson ? » Wilson eût certainement compris s'il n'avait dormi le profond sommeil d'un homme dont la température variait entre 40 et 41 degrés. Mais qu'il entendît ou non, cela n'avait aucune importance pour Sholmès qui continuait. « Il me faut faire appel à toute mon énergie et mettre en œuvre toutes mes ressources pour ne pas me décourager. Heureusement qu'avec moi, ces petites taquineries sont autant de coups d'épingle qui me stimulent. Le feu de la piqûre apaisé, la plaie d'amour-propre refermée, j'en arrive toujours à dire « Amuse-toi bien, mon bonhomme. Un moment ou l'autre, c'est toi-même qui te trahiras. » Car enfin, Wilson, n'est-ce pas Lupin qui, par sa première dépêche et par la réflexion qu'elle a suggérée à la petite Henriette, n'est-ce pas lui qui m'a livré le secret de sa correspondance avec Alice demain? Vous oubliez ce détail, vieux camarade. Il déambulait dans la chambre, à pas sonore, au risque de réveiller le vieux camarade. Enfin, ça ne va pas trop mal, et si les chemins que je suis sont un peu obscurs, je commence à m'y retrouver. Tout d'abord, je vais être fixé sur le sieur Bresson. Ganimard et moi, nous avons rendez-vous au bord de la Seine, à l'endroit où Bresson a jeté son paquet. Et le rôle du monsieur nous sera connu. Pour le reste, c'est une partie à jouer entre Alice demain et moi. L'adversaire est de mince envergure, hein, Wilson? Et ne pensez-vous pas qu'avant un peu, je saurai la phrase de l'album et ce que signifient ces deux lettres isolées, ce C et ce H. Car tout est là, Wilson. Mademoiselle entra au même instant, et apercevant Sholmès qui gesticulait, elle lui dit gentiment, « Monsieur Sholmès, je vais vous gronder si vous réveillez mon malade. Ce n'est pas bien à vous de le déranger. Le docteur exige une tranquillité absolue. » Il la contemplait sans un mot, étonné comme au premier jour de son calme inexplicable. « Qu'avez-vous à me regarder, monsieur Sholmès ?»« Rien. Mais si, vous semblez toujours avoir une arrière-pensée. Laquelle ? Répondez, je vous en prie. » Elle l'interrogeait de tout son clair visage, de ses yeux ingénus, de sa bouche qui souriait, et de toute son attitude aussi, de ses mains jointes, de son buste légèrement penché en avant. Il y avait tant de candeur en elle que l'Anglais en éprouva de la colère. Il s'approcha et lui dit à voix basse, « Bresson s'est tué hier soir. » Elle répéta, sans avoir l'air de comprendre, « Bresson s'est tué hier soir. » En vérité, aucune contraction n'altéra son visage, rien qui révélât l'effort du mensonge. « Vous étiez prévenu, lui dit-il avec irritation, sinon vous auriez au moins tressailli. Ah, vous êtes plus forte que je ne croyais. Mais pourquoi dissimuler ?» Il saisit l'album à images qu'il venait de déposer sur une table voisine et, l'ouvrant à la page découpée, « Pourriez-vous me dire dans quel ordre on doit disposer les lettres qui manquent ici pour connaître la teneur exacte du billet que vous avez envoyé à Bresson ?» 4 jours avant le vol de la lampe juive. Dans quel ordre ? Bresson ? Le vol de la lampe juive ? Elle redisait les mots, lentement, comme pour en dégager le sens. Il insista. « Oui, voici les lettres employées, sur ce bout de papier. Que disiez-vous à Bresson ?»« Les lettres employées, ce que je disais. » Soudain, elle éclata de rire. « Ça y est ! « Je comprends. Je suis la complice du vol. Il y a un monsieur Bresson qui a pris la lampe juive et qui s'est tué. Et moi, je suis l'ami de ce monsieur. Oh, que c'est amusant !»« Qui donc avez-vous été voir hier dans la soirée, au second étage d'une maison de l'avenue des Ternes ?»« Qui ? Mais ma modiste, mademoiselle Langeais. Est-ce que ma modiste et mon ami monsieur Bresson ne feraient qu'une seule et même personne ?» Malgré tout, Sholmès douta. On peut feindre de manière à donner le change, la terreur, la joie, l'inquiétude, tous les sentiments. Mais non point l'indifférence, non point le rire heureux et insouciant. Cependant, il lui dit encore. Un dernier mot. Pourquoi, l'autre soir, à la gare du Nord, m'avez-vous abordé? Et pourquoi m'avez-vous supplié de repartir immédiatement sans m'occuper de ce vol?
Ah, vous êtes trop curieux, monsieur Sholmès, répondit-elle en riant toujours de la façon la plus naturelle. Pour votre punition, vous ne saurez rien. Et en outre, vous garderez le malade pendant que je vais chez le pharmacien. Une ordonnance pressée. Je me sauve. Elle sortit.
Je suis roulé, murmura Sholmès. Non seulement je n'ai rien tiré d'elle, mais c'est moi qui me suis découvert.
Et il se rappelait l'affaire du diamant bleu et l'interrogatoire qu'il avait fait subir à Clotilde d'Étanges. N'était-ce pas la même sérénité que la dame blonde lui avait opposée? Et ne se trouvait-il pas de nouveau en face d'un de ces êtres qui, protégés par Arsène Lupin, sous l'action directe de son influence, gardaient dans l'angoisse même du danger le calme le plus stupéfiant?
« Sholmès, Sholmès !»
Il s'approcha de Wilson qui l'appelait et s'inclina vers lui.
« Qu'y a-t-il, vieux camarade? On souffre ?»
Wilson remua les lèvres sans pouvoir parler. Enfin, après de grands efforts, il bégaya.
« Non, Sholmès, ce n'est pas elle. Il est impossible que ce soit elle.
« Qu'est-ce que vous me chantez là? Je vous dis que c'est elle, moi. » Il n'y a qu'en face d'une créature de Lupin, dressée et remontée par lui, que je perds la tête et que j'agis aussi sottement. La voilà maintenant qui connaît toute l'histoire de l'album. Je vous parie qu'avant une heure, Lupin sera prévenu.
Avant une heure? Que dis-je? Mais tout de suite.
Le pharmacien, l'ordonnance pressée, des blagues. Il s'esquiva rapidement, descendit l'avenue de Messine et avisa mademoiselle qui entrait dans une pharmacie. Elle reparut 10 minutes plus tard avec des flacons et une bouteille enveloppée de papier blanc. Mais alors qu'elle remontait l'avenue, elle fut accostée par un homme qui la poursuivit, la casquette à la main et l'air obséquieux, comme s'il demandait la charité. Elle s'arrêta et lui fit l'aumône, puis reprit son chemin. « Elle lui a parlé, se dit l'anglais. » Plutôt qu'une certitude, ce fut une intuition, assez forte cependant pour qu'il changeât de tactique. Abandonnant la jeune fille, il se lança sur la piste du faux mendiant. Ils arrivèrent ainsi l'un derrière l'autre à la place Saint-Ferdinand, et l'homme erra longtemps autour de la maison de Bresson, levant parfois les yeux aux fenêtres du second étage et surveillant les gens qui pénétraient dans la maison. Au bout d'une heure, ils montèrent sur l'impériale d'un tramway qui se dirigeait vers Neuilly. Sholmès y monta également et s'assit derrière l'individu, un peu plus loin, et à côté d'un monsieur qui dissimulait les feuilles ouvertes de son journal. Aux fortifications, le journal s'abaissa. Sholmès aperçut Ganimard, et Ganimard lui dit à l'oreille en désignant l'individu « C'est notre homme d'hier soir, celui qui suivait Bresson. Il y a une heure qu'il vagabonde sur la place. »
« Rien de nouveau pour Bresson ?» demanda Sholmès.
« Si. » Une lettre qui est arrivée ce matin à son adresse.
« Ce matin ?
Donc, elle a été mise à la poste hier, avant que l'expéditeur ne sache la mort de Bresson. » « Précisément. Elle est entre les mains du juge d'instruction. Mais j'en ai retenu les termes. Il n'accepte aucune transaction. Il veut tout. La première chose aussi bien que celle de la seconde affaire. Sinon, il agit. Et pas de signature, ajouta Ganimard. Comme vous voyez, ces quelques lignes ne nous serviront guère.
Je ne suis pas du tout de votre avis, monsieur Ganimard. Ces quelques lignes me semblent au contraire fort intéressantes.
Et pourquoi, mon Dieu?
Pour des raisons qui me sont personnelles, répondit Sholmès avec le sans-gêne dont il usait envers son collègue. Le tramway s'arrêta rue du Château, au point terminus. L'individu descendit et s'en alla paisiblement. Sholmès l'escortait, et de si près que Ganimard s'en effraya. S'il se retourne, nous sommes brûlés.
Il ne se retournera pas maintenant.
Qu'en savez-vous?
C'est un complice d'Arsène Lupin, et le fait qu'un complice de Lupin s'en va ainsi, les mains dans ses poches, prouve d'abord qu'il se sait suivi, et en second lieu qu'il ne craint rien.
Pourtant, nous le serrons d'assez près. Pas assez pour qu'il ne puisse glisser entre les doigts avant une minute. Il est trop sûr de lui.
Voyons, voyons, vous me faites poser. Il y a là-bas à la porte de ce café 2 agents cyclistes. Si je décide de les requérir et d'aborder le personnage, je me demande comment il nous glissera entre les doigts.
Le personnage ne paraît pas s'émouvoir beaucoup de cette éventualité. C'est lui-même qui les requiert.
Nom d'un chien, proféra Ganimard. Il a de l'aplomb. L'individu, en effet, s'était avancé vers les deux agents au moment où ceux-ci se disposaient à enfourcher leur bicyclette. Il leur dit quelques mots, puis, soudain, sauta sur une troisième bicyclette qui était appuyée contre le mur du café et s'éloigna rapidement avec les deux agents. L'Anglais s'esclaffait.
« Hein ? L'avais-je prévu ? 1, 2, 3, enlevé. Et par qui ?
Par deux de vos collègues, monsieur Ganimard. Ah, il se met bien, Arsène Lupin. Des agents cyclistes à sa solde. Quand je vous disais que notre personnage était beaucoup trop calme.
Alors quoi ? S'écria Ganimard, vexé. Que fallait-il faire ?
C'est très commode de rire.
Allons, allons, ne vous fâchez pas. On se vengera. Pour le moment, il nous faut du renfort.
Folenfant m'attend au bout de l'avenue de Neuilly. Eh bien, prenez-le au passage et venez me rejoindre.
Ganimard s'éloigna, tandis que Sholmès suivait les traces des bicyclettes, d'autant plus visibles sur la poussière de la route que deux des machines étaient munies de pneumatiques striés. Et il s'aperçut bientôt que ces traces le conduisaient au bord de la Seine et que les trois hommes avaient tourné du même côté que Bresson, la veille au soir. Il parvint ainsi à la grille contre laquelle lui-même s'était caché avec Ganimard, et un peu plus loin, il constata un emmêlement des lignes striées qui lui prouva qu'on avait fait halte à cet endroit. Juste en face, il y avait une petite langue de terrain qui pointait dans la Seine et à l'extrémité de laquelle une vieille barque était amarrée. C'est là que Bresson avait dû jeter son paquet, ou plutôt qu'il l'avait laissé tomber. Sholmès descendit le talus et vit que, la berge s'abaissant en pente très douce et l'eau du fleuve étant basse, il lui serait facile de retrouver le paquet, à moins que les trois hommes n'eussent pris les devants.
« Non, non, se dit-il, ils n'ont pas eu le temps. Un quart d'heure tout au plus, et cependant, pourquoi ont-ils passé par là ?»
Un pêcheur était assis dans la barque. Sholmès lui demanda, « Vous n'avez pas aperçu trois hommes en bicyclette ?» Le pêcheur fit signe que non.
L'Anglais insista. « Mais si, trois hommes, ils viennent de s'arrêter à deux pas de vous. » Le pêcheur mit sa ligne sous son bras, sortit de sa poche un carnet, écrivit sur une des pages, la déchira et la tendit à Sholmès. Un grand frisson secoua l'Anglais. D'un coup d'œil, il avait vu, au milieu de la page qu'il tenait à la main, la série des lettres déchirées de l'album. « CDEHNOPRZEO-237 »
Un lourd soleil pesait sur la rivière. L'homme avait repris sa besogne, abrité sous la vaste cloche d'un chapeau de paille, sa veste et son gilet pliés à côté de lui. Il pêchait attentivement, tandis que le bouchon de sa ligne flottait au fil de l'eau. Il s'écoula bien une minute de solennel et terrible silence. « Est-ce lui ?» pensait Sholmès avec une anxiété presque douloureuse. Et la vérité l'éclairant, c'est lui, lui seul est capable de rester ainsi sans un frémissement d'inquiétude, sans rien craindre de ce qui va se passer. Et quel autre saurait cette histoire de l'album ? Alice l'a prévenu par son messager. Tout à coup, l'Anglais sentit que sa main, que sa propre main avait saisi la crosse de son revolver et que ses yeux se fixaient sur le dos de l'individu. Un peu au-dessous de la nuque. Un geste et tout le drame se dénouait. La vie de l'étrange aventurier se terminait misérablement. Le pêcheur ne bougea pas. Sholmès serra nerveusement son arme avec l'envie farouche de tirer et d'en finir, et l'horreur en même temps d'un acte qui déplaisait à sa nature. La mort était certaine. Ce serait fini. Ah, pensa-t-il, qu'il se lève, qu'il se défende, sinon, tant pis pour lui. Une seconde encore et je tire. Mais un bruit de pas lui ayant fait tourner la tête, il avisa Ganimard qui s'en venait en compagnie des inspecteurs. Alors, changeant d'idée, il prit son élan, d'un bond sauta dans la barque dont l'amarre se cassa sous la poussée trop forte, tomba sur l'homme et l'étreignit à bras-le-corps. Ils roulèrent tous deux au fond du bateau.
« Et après ? » s'écria Lupin, tout en se débattant, « qu'est-ce que cela prouve ? Quand l'un de nous aura réduit l'autre à l'impuissance, il sera bien avancé. Vous ne saurez pas quoi faire de moi, ni moi de vous. On restera là comme deux imbéciles. » Les deux rames glissèrent à l'eau. La barque s'en fut à la dérive. Des exclamations s'entrecroisaient le long de la berge, et Lupin continuait. « Que d'histoire, seigneur! Vous avez donc perdu la notion des choses? De pareilles bêtises à votre âge, et un grand garçon comme vous. Fi que c'est vilain !» Il réussit à se dégager. Exaspéré, résolu à tout, Herlock Sholmès mit la main à sa poche. Il poussa un juron. Lupin lui avait pris son revolver. Alors, il se jeta à genoux et tâcha de rattraper un des avirons afin de gagner le bord, tandis que Lupin s'acharnait après l'autre, afin de gagner le large. « L'aura, l'aura pas, » disait Lupin. « D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Si vous avez votre arme, je vous empêche de vous en servir, et vous de même. Mais voilà, dans la vie, on s'efforce d'agir, sans la moindre raison, puisque c'est toujours le sort qui décide. Tenez, vous voyez, le sort, eh bien, il se décide pour son vieux Lupin. Victoire! Le courant me favorise. » Le bateau, en effet, tendait à s'éloigner. « Garde à vous, » cria Lupin. Quelqu'un sur la rive braquait un revolver. Il baissa la tête, une détonation retentit. Un peu d'eau jaillit auprès d'eux. Lupin éclata de rire. « Dieu me pardonne, c'est l'ami Ganimard. Mais c'est très mal ce que vous faites là, Ganimard. Vous n'avez le droit de tirer qu'en cas de légitime défense. Ce pauvre Arsène vous rend donc féroce au point d'oublier tous vos devoirs. Allons bon, le voilà qui recommence. Mais malheureux, c'est mon cher maître que vous allez frapper. » Il fit à Sholmès un rempart de son corps, et debout dans la barque, face à Ganimard, « Bien, maintenant je suis tranquille. Visez là, Ganimard, en plein cœur. Plus haut, à gauche. C'est raté, fichu maladroit. Encore un coup. Mais vous tremblez, Ganimard. Au commandement, n'est-ce pas? Et du sang-froid. Une, deux, trois, feu. Raté. Sacré bleu, le gouvernement vous donne donc des joujoux d'enfants comme pistolet? » Il exhiba un long revolver, massif et plat, et sans viser, tira. L'inspecteur porta la main à son chapeau. Une balle l'avait roué. Qu'en dites-vous, Ganimard? Ah! Cela vient d'une bonne fabrique. Saluez, messieurs, c'est le revolver de mon noble ami maître Herlock Sholmès. Et d'un tour de bras, il lança l'arme au pied même de Ganimard. Sholmès ne pouvait s'empêcher de sourire et d'admirer. Quel débordement de vie! Quelle allégresse jeune et spontanée! Et comme il paraissait se divertir! On eût dit que la sensation du péril lui causait une joie physique, et que l'existence n'avait pas d'autre but pour cet homme extraordinaire que la recherche de danger qu'il s'amusait ensuite à conjurer. De chaque côté du fleuve, cependant, des gens se massaient, et Ganimard et ses hommes suivaient l'embarcation qui se balançait au large, très doucement entraîné par le courant. C'était la capture inévitable, mathématique. « Avouez, maître, s'écria Lupin en se retournant vers l'anglais, que vous ne donneriez pas votre place pour tout l'or du Transvaal. C'est que vous êtes au premier rang des fauteuils. Mais d'abord et avant tout, le prologue. Après quoi nous sauterons d'un coup au cinquième acte, la capture ou l'évasion d'Arsène Lupin. Donc, mon cher maître, j'ai une question à vous poser et je vous supplie, afin qu'il n'y ait pas d'équivoque, d'y répondre par un oui ou un non. Renoncez à vous occuper de cette affaire. Il en est encore temps et je puis réparer le mal que vous avez fait. Plus tard, je ne le pourrai plus. Est-ce convenu? Non. La figure de Lupin se contracta. Visiblement, cette obstination l'irritait. Il reprit. J'insiste. Pour vous encore plus que pour moi, j'insiste. Certain que vous serez le premier à regretter votre intervention. Une dernière fois, oui ou non? Non. Lupin s'accroupit, déplaça une des planches du fond et, durant quelques minutes, exécuta un travail dont Sholmès ne put discerner la nature. Puis il se releva, s'assit auprès de l'anglais et lui tint ce langage. Je crois, maître, que nous sommes venus au bord de cette rivière pour des raisons identiques. Repêcher l'objet dont Bresson s'est débarrassé. Pour ma part, j'avais donné rendez-vous à quelques camarades et j'étais sur le point, mon costume sommaire l'indique, d'effectuer une petite exploration dans les profondeurs de la Seine, quand mes amis m'ont annoncé votre approche. Je vous confesse d'ailleurs que je n'en fus pas surpris, étant prévenu heure par heure, j'ose le dire, des progrès de votre enquête.
c'est si facile. Dès qu'il se passe rue Muriot, la moindre chose susceptible de m'intéresser, vite, un coup de téléphone et je suis averti. Vous comprendrez que, dans ces conditions... Il s'arrêta. La planche qu'il avait écartée se soulevait maintenant et tout autour, de l'eau filtrait par petits jets. Diable, j'ignore comment j'ai procédé, mais j'ai tout lieu de penser qu'il y a une voie d'eau au fond de cette vieille embarcation. Vous n'avez pas peur, maître? Sholmès haussa les épaules. Lupin continua. Vous comprendrez donc que, dans ces conditions, et sachant par avance que vous rechercheriez le combat d'autant plus ardemment que je m'efforçais, moi, de l'éviter, il m'était plutôt agréable d'engager avec vous une partie dont l'issue est certaine puisque j'ai tous les atouts en main. Et j'ai voulu donner à notre rencontre le plus d'éclat possible, afin que votre défaite fût universellement connue, et qu'une autre comtesse de Crozon ou un autre baron d'Imbleval ne fussent pas tentés de solliciter votre secours contre moi. Ne voyez là d'ailleurs, mon cher maître. Il s'interrompit de nouveau, et, se servant de ses mains à demi fermées comme de lorgnettes, il observa les rives. Bigre! Ils ont frété un superbe canot, un vrai navire de guerre, et les voilà qui font force rame. Avant 5 minutes, ce sera l'abordage, et je suis perdu. Monsieur Sholmès, un conseil. Vous vous jetez sur moi, vous me ficelez, et vous me livrez à la justice de mon pays. Ce programme vous plaît-il? À moins que d'ici là nous n'ayons fait naufrage, auquel cas il ne nous resterait plus qu'à préparer notre testament. Qu'en pensez-vous? Le regard se croisèrent. Cette fois, Sholmès s'expliqua la manœuvre de Lupin. Il avait percé le fond de la barque, et l'eau montait. Elle gagna les semelles de leurs bottines. Elle recouvrit leurs pieds. Ils ne firent pas un mouvement. Elle dépassa leurs chevilles. L'Anglais saisit sa blague à tabac, roula une cigarette et l'alluma. Lupin poursuivit. Et ne voyez là, mon cher maître, que l'humble aveu de mon impuissance à votre égard. C'est m'incliner devant vous que d'accepter les seules batailles où la victoire me soit acquise, afin d'éviter celles dont je n'aurais pas choisi le terrain. C'est reconnaître que Sholmès est l'unique ennemi que je craigne, et proclamer mon inquiétude tant que Sholmès ne sera pas écarté de ma route. Voilà, mon cher maître, ce que je tenais à vous dire, puisque le destin m'accorde l'honneur d'une conversation avec vous. Je ne regrette qu'une chose, c'est que cette conversation ait lieu pendant que nous nous prenons un bain de pied. Situation qui manque de gravité, je le confesse. Et que dis-je, un bain de pied, un bain de siège plutôt. L'eau, en effet, parvenait au banc où ils étaient assis, et de plus en plus la barque s'enfonçait. Sholmès, imperturbable, la cigarette aux lèvres, semblait absorbé dans la contemplation du ciel. Pour rien au monde, en face de cet homme environné de périls, cerné par la foule, traqué par la meute des agents, et qui cependant gardait sa belle humeur, pour rien au monde, il n'eût consenti à montrer lui le plus léger signe d'agitation. Quoi ? Avait-il l'air de dire tous deux, s'émeut-on pour de telles futilités ? N'advient-il pas chaque jour que l'on se noie dans un fleuve ? Est-ce là de ces événements qui méritent qu'on y prête attention ? Et l'un bavardait et l'autre rêvassait, tous deux cachant sous un même masque d'insouciance le choc formidable de leurs deux orgueils. Une minute encore, ils allaient couler. L'essentiel, formula Lupin, est de savoir si nous coulerons avant ou après l'arrivée des champions de la justice. Tout est là. Car pour la question du naufrage, elle ne se pose même plus. Maître, c'est l'heure solennelle du testament. Je lègue toute ma fortune à Herlock Sholmès, citoyen anglais, à charge pour lui. Mais, mon Dieu, qu'ils avancent vite, les champions de la justice. Ah, les braves gens, ils font plaisir à voir. Quelle précision dans le coup de rame. Tiens, mais c'est vous, brigadier Folenfant. Bravo! L'idée du navire de guerre est excellente. Je vous recommanderai à vos supérieurs, brigadier Folenfant. Est-ce la médaille que vous souhaitez? Entendu, c'est chose faite. Et votre camarade, Dieuzy, où est-il donc? Sur la rive gauche, n'est-ce pas, au milieu d'une centaine d'indigènes? De sorte que, si j'échappe au naufrage, je suis recueilli à gauche par Dieuzy et ses indigènes, ou bien à droite par Ganimard et les populations de Neuilly. Fâcheux dilemme. Il y eut un remous. L'embarcation vira sur elle-même, et Sholmès dut s'accrocher à l'anneau des avirons.
Maître, dit Lupin, je vous supplie d'ôter votre veste. Vous serez plus à l'aise pour nager. Non ? Vous refusez ? Alors je remets la mienne. Il enfila sa veste, la boutonna hermétiquement comme celle de Sholmès et soupira. Quel heureux homme vous faites ! Et qu'il est dommage que vous vous entêtiez dans une affaire, où vous donnez certes la mesure de vos moyens, mais si vainement. Vrai, vous gâchez votre beau génie. Monsieur Lupin, prononça Sholmès, sortant enfin de son mutisme, vous parlez beaucoup trop, et vous pêchez souvent par excès de confiance et par légèreté. Le reproche est sévère. C'est ainsi que, sans le savoir, vous m'avez fourni, il y a un instant, le renseignement que je cherchais. Comment ? Vous cherchiez un renseignement et vous ne me le disiez pas ? Je n'ai besoin de personne. D'ici 3 heures, je donnerai le mot de l'énigme à monsieur et madame d'Imbleval. Voilà l'unique réponse. Il n'acheva pas sa phrase. La barque avait sombré d'un coup, les entraînant tous deux. Elle émergea aussitôt, retournée, la coque en l'air. Il y eut de grands cris sur les deux rives. Puis un silence anxieux, et soudain de nouvelles exclamations. Un des naufragés avait reparu. C'était Herlock Sholmès. Excellent nageur, il se dirigea à large brassée vers le canot de Folenfant. « Hardi, monsieur Sholmès !» hurla le brigadier. « Nous y sommes. Ne faiblissez pas. On s'occupera de lui après. » Nous le tenons. Allez, un petit effort, monsieur Sholmès. Prenez la corde. » L'Anglais saisit une corde qu'on lui tendait, mais pendant qu'il se hissait à bord, une voix derrière lui l'interpella. « Le mot de l'énigme, mon cher maître. Parbleu, oui, vous l'aurez. Je m'étonne même que vous ne l'ayez pas déjà. Et après, à quoi cela vous servira-t-il? C'est justement alors que la bataille sera perdue pour vous. » À cheval sur la coque, dont il venait d'escalader les parois tout en pérorant, confortablement installé maintenant, Arsène Lupin poursuivait son discours avec des gestes solennels, et comme s'il espérait convaincre son interlocuteur. « Comprenez-le bien, mon cher maître, il n'y a rien à faire, absolument rien. Vous vous trouvez dans la situation déplorable d'un monsieur. » Folenfant l'ajusta. « Rendez-vous, Lupin. » « Vous êtes un malotru, brigadier Folenfant. Vous m'avez coupé au milieu d'une phrase. Je disais donc, rendez-vous, Lupin !»« Mais sacré bleu, brigadier Folenfant, on ne se rend que si l'on est en danger. Or, vous n'avez pas la prétention de croire que je cours le moindre danger. »« Pour la dernière fois, Lupin, je vous somme de vous rendre. »« Brigadier Folenfant, vous n'avez nullement l'intention de me tuer, tout au plus de me blesser. » Tellement vous avez peur que je m'échappe. Et si par hasard la blessure était mortelle? Non, mais pensez à vos remords malheureux, à votre vieillesse empoisonnée. Le coup partit. Lupin chancela, se cramponna un instant à l'épave, puis lâcha prise et disparut. Fin de la section 15.
Section 16 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 16. La lampe juive. Chapitre 2. Suite. Il était exactement 3 heures lorsque ces événements se produisirent. À 6 heures précises, ainsi qu'il l'avait annoncé, Herlock Sholmès, vêtu d'un pantalon trop court et d'un veston trop étroit, qu'il avait emprunté à un aubergiste de Neuilly, coiffé d'une casquette et paré d'une chemise de flanelle à cordelière de soie, entra dans le boudoir de la rue Mourieux, après avoir fait prévenir Monsieur et Madame d'Imbleval qu'il leur demandait un entretien. Ils le trouvèrent qui se promenait de long en large, et il leur parut si comique dans sa tenue bizarre qu'ils durent réprimer une forte envie de rire. L'air pensif, le dos voûté, il marchait comme un automate, de la fenêtre à la porte, et de la porte à la fenêtre, faisant chaque fois le même nombre de pas et pivotant chaque fois dans le même sens.
Il s'arrêta, saisit un bibelot, l'examina machinalement, puis reprit sa promenade. Enfin, se plantant devant eux, il demanda « Mademoiselle est-elle ici ?»«
Oui, dans le jardin, avec les enfants. »«
Monsieur le baron, l'entretien que nous allons avoir étant définitif, je voudrais que mademoiselle demain y assistât. »«
Est-ce que, décidément, ayez un peu de patience, monsieur. » La vérité sortira clairement des faits que je vais exposer devant vous avec le plus de précision possible. Soit. Suzanne, veux-tu... Madame d'Imbleval se leva et revint presque aussitôt, accompagnée d'Alice demain. Mademoiselle, un peu plus pâle que de coutume, resta debout, appuyée contre une table et sans même demander la raison pour laquelle on l'avait appelée. Sholmès ne parut pas la voir et, se tournant brusquement vers M. d'Imbleval, il articula d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Après plusieurs jours d'enquête, monsieur, et bien que certains événements aient modifié un instant ma manière de voir, je vous répéterai ce que je vous ai dit dès la première heure. La lampe juive a été volée par quelqu'un qui habite cet hôtel.
Le nom du coupable?
Je le connais.
Les preuves?
Celles que j'ai suffiront à le confondre.
Il ne suffit pas qu'il soit confondu, il faut encore qu'il nous restitue.
La lampe juive, elle est en ma possession.
Le collier d'opale, la tabatière.
Le collier d'opale, la tabatière, bref, tout ce qui vous fut dérobé la seconde fois est en ma possession.
Sholmès aimait ses coups de théâtre et cette manière un peu sèche d'annoncer ses victoires. De fait, le baron et sa femme semblaient stupéfiés et le considérait avec une curiosité silencieuse qui était la meilleure des louanges. Il reprit ensuite par le menu le récit de ce qu'il avait fait durant ces trois jours. Il dit la découverte de l'album, écrivit sur une feuille de papier la phrase formée par les lettres découpées, puis raconta l'expédition de Bresson au bord de la Seine et le suicide de l'aventurier, et enfin la lutte que lui, Sholmès, venait de soutenir contre Lupin, le naufrage de la barque et la disparition de Lupin. Quand il eut terminé, le baron dit à voix basse « Il ne vous reste plus qu'à nous révéler le nom du coupable. Qui donc accusez-vous ? »
« J'accuse la personne qui a découpé les lettres de cet alphabet et communiqué au moyen de ces lettres avec Arsène Lupin. »
« Comment savez-vous que le correspondant de cette personne est Arsène Lupin ? » ?»«
Par Lupin lui-même. »
Il tendit un bout de papier mouillé et froissé. C'était la page que Lupin avait arrachée de son carnet dans la barque et sur laquelle il avait inscrit la phrase.
Et remarquez, nota Sholmès avec satisfaction, que rien ne l'obligeait à me donner cette feuille et, par conséquent, à se faire reconnaître. Simple gaminerie de sa part et qui m'a renseigné.
Qui vous a renseigné, dit le baron, je ne vois rien cependant.
Sholmès repassa au crayon les lettres et les chiffres. « C-D-E-H-N-O-P-R-Z-E-O-2-3-7 »«
Eh bien, fit M. d'Imbleval, c'est la formule que vous venez de nous montrer vous-même. »«
Non. Si vous aviez tourné et retourné cette formule dans tous les sens, vous auriez vu du premier coup d'œil, comme je l'ai vu, qu'elle n'est pas semblable à la première. »«
Et en quoi donc ?»«
Elle comprend deux lettres de plus, un E et un O. »
En effet, je n'avais pas observé.
Rapprocher ces deux lettres du C et du H, qui nous restaient en dehors du mot répondez, et vous constaterez que le seul mot possible est « écho ».
Ce qui signifie ?
Ce qui signifie l'Écho de France, le journal de Lupin, son organe officiel, celui auquel il réserve ses communiqués. Répondez à l'Écho de France, rubrique de la petite correspondance numéro 237. C'était là le mot de l'énigme que j'ai tant cherché et que Lupin m'a fourni avec tant de bonne grâce.
J'arrive des bureaux de l'Écho de France.
Et vous avez trouvé?
J'ai trouvé toute l'histoire détaillée des relations d'Arsène Lupin et de sa complice.
Et Sholmès étala sept journaux ouverts à la quatrième page et dont il détacha les sept lignes suivantes. Premier. ARS.LUP. DAMIMPL. PROTECT. 540. Deuxième. 540.
attend explication, à elle. Troisième, à elle sous D-O-M-I-N point, ennemi point, perdu point. Quatrième, 540, écrivez adresse, ferez enquête. Cinquième, A.L.Murillo. Sixième, 540 point, parc 3 heures point, violette point. Septième, 237 point, entendu S.A.M. point, serez D.I.M. point, M.A.T. point, P.A.R.C. point. « Et vous appelez cela une histoire détaillée ?» s'écria M. d'Imbleval. « Mon Dieu, oui, et pour peu que vous y prêtiez attention, vous serez de mon avis. Tout d'abord, une dame qui signe 540 implore la protection d'Arsène Lupin, à quoi Lupin riposte par une demande d'explication. La dame répond qu'elle est sous la domination d'un ennemi, de Bresson sans aucun doute, et qu'elle est perdue si l'on ne vient à son aide. » Lupin, qui se méfie, qui n'ose encore s'aboucher avec cet inconnu, exige l'adresse et propose une enquête. La dame hésite pendant 4 jours, consultez les dates. Enfin pressée par les événements, influencée par les menaces de Bresson, elle donne le nom de sa rue, Murillo. Le lendemain, Arsène Lupin annonce qu'il sera dans le parc Monceau à 3 heures et prie son inconnu de porter un bouquet de violettes comme signe de ralliement. Là, une interruption de 8 jours dans la correspondance. Arsène Lupin et la dame n'ont pas besoin de s'écrire par la voix du journal. Ils se voient ou s'écrivent directement. Le plan est ourdi pour satisfaire aux exigences de Bresson. La dame enlèvera la lampe juive. Reste à fixer le jour. La dame qui, par prudence, correspond à l'aide de mots découpés et collés, se décide pour le samedi et ajoute « Répondez écho 237 ». Lupin répond que c'est entendu et qu'il sera en outre le dimanche matin dans le parc. Le dimanche matin, le vol avait lieu. « En effet, tout s'enchaîne, approuva le baron, et l'histoire est complète. » Sholmès reprit. « Donc le vol a lieu. La dame sort le dimanche matin, rend compte à Lupin de ce qu'elle a fait et porte à Bresson la lampe juive. Les choses se passent alors comme Lupin l'avait prévu. La justice, abusée par une fenêtre ouverte, 4 trous dans la terre et 2 éraflures sur un balcon, admet aussitôt l'hypothèse du vol par effraction. La dame est tranquille. « Soit, fit le baron, j'admets cette explication très logique. Mais le second vol ? Le second vol fut provoqué par le premier. Les journaux ayant raconté comment la lampe juive avait disparu, quelqu'un eut l'idée de répéter l'agression et de s'emparer de ce qui n'avait pas été emporté. Et cette fois, ce ne fut pas un vol simulé, mais un vol réel, avec effraction véritable, escalade, etc. Lupin, bien entendu. Non, Lupin n'agit pas aussi stupidement. Lupin ne tire pas sur les gens pour un oui ou un non. Alors qui est-ce? Bresson, sans aucun doute, et à l'insu de la dame qui l'avait fait chanter. C'est Bresson qui est entré ici. C'est lui que j'ai poursuivi. C'est lui qui a blessé mon pauvre Wilson. En êtes-vous bien sûr? Absolument. Un des complices de Bresson lui a écrit hier, avant son suicide, une lettre qui prouve que des pourparlers furent engagés entre ce complice et Lupin pour la restitution de tous les objets volés dans votre hôtel. Lupin exigeait tout. La première chose, c'est-à-dire la lampe juive, aussi bien que celle de la seconde affaire. En outre, il surveillait Bresson. Quand celui-ci s'est rendu hier soir au bord de la Seine, un des compagnons de Lupin le filait en même temps que nous. Qu'alla faire Bresson au bord de la Seine? Averti des progrès de mon enquête, averti par qui? Par la même dame, laquelle craignait à juste titre que la découverte de la lampe juive n'amenât la découverte de son aventure. Donc, Bresson averti, réunit en un seul paquet ce qui peut le compromettre, et il le jette dans un endroit où il lui est possible de le reprendre une fois le danger passé. C'est au retour que, traqué par Ganimard et par moi, ayant sans doute d'autres forfaits sur la conscience, il perd la tête et se tue. Mais que contenait le paquet? La lampe juive et vos autres bibelots. Ils ne sont donc pas en votre possession?
Aussitôt après la disparition de Lupin, j'ai profité du bain qu'il m'avait forcé de prendre pour me faire conduire à l'endroit choisi par Bresson, et j'ai retrouvé, enveloppé de linge et de toile cirée, ce qui vous fut dérobé. Le voici, sur cette table. » Sans un mot, le baron coupa les ficelles, déchira d'un coup les linges mouillés, en sortit la lampe, tourna un écrou placé sous le pied, fit effort des deux mains sur le récipient, le dévissa, l'ouvrit en deux parties égales et découvrit la chimère en or, rehaussée de rubis et d'émeraudes. Elle était intacte. Il y avait dans toute cette scène, si naturelle en apparence et qui consistait en une simple exposition de faits, quelque chose qui la rendait effroyablement tragique. C'était l'accusation formelle, directe, irréfutable, que Sholmès lançait à chacune de ses paroles contre mademoiselle. Et c'était aussi le silence impressionnant d'Alice Demun. Pendant cette longue, cette cruelle accumulation de petites preuves ajoutées les unes aux autres, pas un muscle de son visage n'avait remué. Pas un éclair de révolte ou de crainte n'avait troublé la sérénité de son limpide regard. Que pensa-t-elle? Et surtout, qu'allait-elle dire à la minute solennelle où il lui faudrait répondre, où il lui faudrait se défendre et briser le cercle de fer dans lequel Herlock Sholmès l'emprisonnait si habilement? Cette minute avait sonné, et la jeune fille se taisait. « Parlez! Parlez donc! » s'écria M. d'Imblevalle. Elle ne parla point. Il insista. « Un mot vous justifierait, un mot de révolte, et je vous croirai. » Ce mot, elle ne le dit point. Le baron traversa vivement la pièce, revint sur ses pas, recommença, puis s'adressa à Sholmès. « Eh bien non, monsieur, je ne peux pas admettre que ce soit vrai. Il y a des crimes impossibles, et celui-là est en opposition avec tout ce que je sais, tout ce que je vois depuis un an. » Il appliqua sa main sur l'épaule de l'Anglais. « Mais vous-même, messieurs, êtes-vous absolument et définitivement certain de ne pas vous tromper ?» Sholmès hésita, comme un homme qu'on attaque à l'improviste et dont la riposte n'est pas immédiate. Pourtant, il sourit et dit « Seule la personne que j'accuse pouvait, par la situation qu'elle occupe chez vous, savoir que la lampe juive contenait ce magnifique bijou. »« Je ne veux pas le croire, » murmura le baron. « Demandez-le lui. » C'est en effet la seule chose qu'il n'eût point tentée, dans la confiance aveugle que lui inspirait la jeune fille. Pourtant, il n'était plus permis de se soustraire à l'évidence. Il s'approcha d'elle, et, les yeux dans les yeux, « C'est vous, mademoiselle? C'est vous qui avez pris le bijou? C'est vous qui avez correspondu avec Arsène Lupin et simulé le vol? » Elle répondit, « C'est moi, monsieur. » Elle ne baissa pas la tête. Sa figure n'exprima ni honte ni gêne. « Est-ce possible ? » murmura M. d'Imblevalle. « Je n'aurais jamais cru. Vous êtes la dernière personne que j'aurais soupçonnée. Comment avez-vous fait, malheureuse ?» Elle dit, « J'ai fait ce que M. Sholmès a raconté. La nuit du samedi au dimanche, je suis descendue dans ce boudoir. J'ai pris la lampe et le matin, je l'ai portée à cet homme. » « Mais non, objecta le baron. « Ce que vous prétendez est inadmissible. »« Inadmissible? Et pourquoi ?»« Parce que le matin, j'ai retrouvé fermée au verrou la porte de ce boudoir. » Elle rougit, perdit contenance et regarda Sholmès comme si elle lui demandait conseil. Plus encore que par l'objection du baron, Sholmès sembla frappé par l'embarras d'Alice Demun. N'avait-elle donc rien à répondre? Les aveux qui consacraient l'explication que lui, Sholmès, avait fournie sur le vol de la lampe juive masquaient-ils un mensonge qui détruisait aussitôt l'examen des faits? Le baron reprit. « Cette porte était fermée. J'affirme que j'ai retrouvé le verrou comme je l'avais mis la veille au soir. Si vous aviez passé par cette porte ainsi que vous le prétendez, il eût fallu que quelqu'un vous ouvrît de l'intérieur, c'est-à-dire du boudoir ou de notre chambre. Or, il n'y avait personne à l'intérieur de ces deux pièces. » Il n'y avait personne que ma femme et moi. » Sholmès se courba vivement et couvrit son visage de ses deux mains afin de masquer sa rougeur. Quelque chose comme une lumière trop brusque l'avait heurté, et il en resta ébloui, mal à l'aise. Tout se dévoilait à lui ainsi qu'un paysage obscur d'où la nuit s'écarterait soudain. Alice Demun était innocente. Alice Demun était innocente. Il y avait là une vérité certaine, aveuglante,
et c'était en même temps l'explication de la sorte de gêne qu'il éprouvait depuis le premier jour à diriger contre la jeune fille la terrible accusation. Il voyait clair maintenant. Il savait. Un geste, et sur le champ, la preuve irréfutable s'offrirait à lui. Il releva la tête et, après quelques secondes, aussi naturellement qu'il le put, il tourna les yeux vers Madame d'Imbleval. Elle était pâle, de cette pâleur inaccoutumée qui vous envahit aux heures implacables de la vie. Ses mains, qu'elle s'efforçait de cacher, tremblaient imperceptiblement. « Une seconde encore, » pensa Sholmès, et elle se trahit. Il se plaça entre elle et son mari, avec le désir impérieux d'écarter l'effroyable danger qui, par sa faute, menaçait cet homme et cette femme. Mais à la vue du baron, il tressaillit au plus profond de son être. La même révélation soudaine qui l'avait ébloui de clarté illuminait maintenant M. d'Imbleval. Le même travail s'opérait dans le cerveau du mari. Il comprenait à son tour, il voyait. Désespérément, Alice Demun se cabra contre la vérité implacable. « Vous avez raison, monsieur, je faisais erreur. En effet, je ne suis pas rentré par ici. J'ai passé par le vestibule et par le jardin, et c'est à l'aide d'une échelle. » Effort suprême du dévouement, mais effort inutile. Les paroles sonnaient faux. La voix était mal assurée, et la douce créature n'avait plus ses yeux limpides et son grand air de sincérité. Elle baissa la tête, vaincue. Le silence fut atroce. Madame d'Imbleval attendait, livide, toute raidie par l'angoisse et l'épouvante. Le baron semblait se débattre encore, comme s'il ne voulait pas croire à l'écroulement de son bonheur. Enfin, il balbutia. « Parle, explique-toi. » « Je n'ai rien à te dire, mon pauvre ami, » fit-elle très bas et le visage tordu de douleur. « Alors, mademoiselle ?»« Mademoiselle m'a sauvé, par dévouement, par affection, » et elle s'accusait. « Sauvé de quoi ? De qui ?»« De cet homme. »« Bresson ?»« Oui, c'est moi qui le tenais par ses menaces. Je l'ai connu chez une amie, et j'ai eu la folie de l'écouter. Oh, rien que tu ne puisses pardonner. Cependant, j'ai écrit deux lettres. » Des lettres que tu verras. Je les ai rachetées. Tu sais comment? Oh, aie pitié de moi, j'ai tant pleuré. Toi, toi, Suzanne! Il leva sur elle ses poings serrés, prêt à la battre, prêt à la tuer. Mais ses bras retombèrent, et il murmura de nouveau. Toi, Suzanne, toi, est-ce possible? Par petites phrases hachées, elle raconta la navrante et banale aventure. Son réveil effaré devant l'infamie du personnage, ses remords, son affolement. Et elle dit aussi la conduite admirable d'Alice, la jeune fille, devinant le désespoir de sa maîtresse, lui arrachant sa confession, écrivant à Lupin, et organisant cette histoire de vol pour la sauver des griffes de Bresson. « Toi, Suzanne, toi !» répétait M. d'Imbleval, courbé en deux, terrassé. « Comment as-tu pu ?» Le soir de ce même jour, le steamer Ville de Londres, qui fait le service entre Calais et Douvres, glissait lentement sur l'eau immobile. La nuit était obscure et calme. Des nuages paisibles se devinaient au-dessus du bateau, et tout autour, de légers voiles de brume le séparaient de l'espace infini où devait s'épandre la blancheur de la lune et des étoiles. La plupart des passagers avaient regagné les cabines et les salons. Quelques-uns, cependant, plus intrépides, se promenaient sur le pont ou bien sommeillaient au fond de larges rocking chairs et sous d'épaisses couvertures. On voyait çà et là des lueurs de cigares, et l'on entendait, mêlé au souffle doux de la brise, le murmure de voix qui n'osait s'élever dans le grand silence solennel. Un des passagers, qui déambulait d'un pas régulier le long des bastingages, s'arrêta près d'une personne étendue sur un banc, l'examina, et, comme cette personne remuait un peu, lui dit « Je croyais que vous dormiez, mademoiselle Alice. »« Non, non, monsieur Sholmès, je n'ai pas envie de dormir. Je réfléchis. »« À quoi ? Est-ce indiscret de vous le demander ?»« Je pensais à madame d'Imbleval. Elle doit être si triste. Sa vie est perdue. »« mais non, dit-il vivement. Son erreur n'est pas de celle qu'on ne pardonne pas. » M. d'Imbleval oubliera cette défaillance. Déjà, quand nous sommes partis, il la regardait moins durement. Peut-être, mais l'oubli sera long, et elle souffre. Vous l'aimez beaucoup ?
Beaucoup. C'est cela qui m'a donné tant de force pour sourire quand je tremblais de peur, pour vous regarder en face quand j'aurais voulu fuir vos yeux.
Et vous êtes malheureuse de la quitter ?
Très malheureuse. Je n'ai ni parents, ni amis, je n'avais qu'elle.
Vous aurez des amis, dit l'Anglais, que ce chagrin bouleversait. Je vous en fais la promesse. J'ai des relations, beaucoup d'influence. Je vous assure que vous ne regretterez pas votre situation.
Peut-être. Mais Madame d'Imbleval ne sera plus là.
Ils n'échangèrent pas d'autres paroles. Herlock Sholmès fit encore deux ou trois tours sur le pont, puis revint s'installer auprès de sa compagne de voyage. Le rideau de brume se dissipa et les nuages semblaient se disjoindre au ciel. Des étoiles scintillèrent. Sholmès tira sa pipe du fond de son McFarlane, la bourra et frotta successivement quatre allumettes sans réussir à les enflammer. Comme il n'en avait pas d'autres, il se leva et dit à un monsieur qui se trouvait assis à quelques pas « Auriez-vous un peu de feu, s'il vous plaît ?» Le monsieur ouvrit une boîte de tison et frotta. Tout de suite, une flamme jaillit. À sa lueur, Sholmès aperçut Arsène Lupin. S'il n'y avait pas eu chez l'Anglais un tout petit geste, un imperceptible geste de recul, Lupin aurait pu supposer que sa présence à bord était connue de Sholmès, tellement celui-ci resta maître de lui, et tellement fut naturelle l'aisance avec laquelle il tendit la main à son adversaire.
« Toujours en bonne santé, monsieur Lupin. »«
Bravo !» s'exclama Lupin, à qui un tel empire sur soi-même arracha un cri d'admiration.
« Bravo ! Mais pourquoi ?»«
Comment pourquoi ? Vous me voyez réapparaître devant vous, comme un fantôme, après avoir assisté à mon plongeon dans la Seine, et par orgueil, par un miracle d'orgueil que je qualifierais de tout britannique, vous n'avez pas un mouvement de stupeur, pas un mot de surprise. Ma foi, je le répète, bravo, c'est admirable.
Ce n'est pas admirable. À votre façon de tomber de la barque, j'ai fort bien vu que vous tombiez volontairement et que vous n'étiez pas atteint par la balle du brigadier.
Et vous êtes parti sans savoir ce que je devenais ?
Ce que vous deveniez ?
Je le savais. 500 personnes commandaient les deux rives sur un espace d'un kilomètre. Du moment que vous échappiez à la mort, votre capture était certaine.
Pourtant, me voici.
Monsieur Lupin, il y a deux hommes au monde de qui rien ne peut m'étonner. Moi d'abord, et vous ensuite.
La paix était conclue.
Si Sholmès n'avait point réussi dans ses entreprises contre Arsène Lupin, si Lupin demeurait l'ennemi exceptionnel qu'il fallait définitivement renoncer à saisir, si au cours des engagements il conservait toujours la supériorité, l'Anglais n'en avait pas moins, par sa ténacité formidable, retrouvé la lampe juive comme il avait retrouvé le diamant bleu. Peut-être cette fois le résultat était-il moins brillant, surtout au point de vue du public, puisque Sholmès était obligé de taire les circonstances dans lesquelles la lampe juive avait été découverte et de proclamer qu'il ignorait le nom du coupable. Mais d'homme à homme, de Lupin à Sholmès, de policier à cambrioleur, il n'y avait en toute équité ni vainqueur ni vaincu. Chacun d'eux pouvait prétendre à d'égales victoires. Ils causèrent donc, en adversaires courtois qui ont déposé leur arme et qui s'estiment à leur juste valeur. Sur la demande de Sholmès, Lupin raconta son évasion. « Si tant est, dit-il, que l'on puisse appeler cela une évasion. Ce fut si simple. Mes amis veillaient, puisqu'on s'était donné rendez-vous pour repêcher la lampe juive. Aussi, après être resté une bonne demi-heure sous la coque renversée de la barque, j'ai profité d'un instant où Folenfant et ses hommes cherchaient mon cadavre le long des rives, et je suis remonté sur l'épave. Mes amis n'ont eu qu'à me recueillir au passage dans leur canot automobile et à filer sous l'œil ahuri des 500 curieux de Ganimard et de Folenfant.
Très joli, s'écria Sholmès, tout à fait réussi. Et maintenant, vous avez affaire en Angleterre ?
Oui, quelques règlements de compte. Mais j'oubliais, monsieur d'Imbleval.
Et c'est tout.
Ah, mon cher maître, que vous avais-je dit ?
Le mal est irréparable maintenant.
N'eût-il pas mieux valu me laisser agir à ma guise ?
Encore un jour ou deux, et je reprenais à Bresson la lampe juive et les bibelots. Je les renvoyais au d'Imbleval, et ces deux braves gens eussent achevé de vivre paisiblement l'un auprès de l'autre. Au lieu de cela, Au lieu de cela, ricanait Sholmès, j'ai brouillé les cartes et porté la discorde au sein d'une famille que vous protégiez. Mon Dieu, oui, que je protégeais. Est-il indispensable de toujours voler, duper et faire le mal? Alors, vous faites le bien aussi? Quand j'ai le temps. Et puis ça m'amuse. Je trouve extrêmement drôle que, dans l'aventure qui nous occupe, je sois le bon génie qui secourt et qui sauve, et vous le mauvais génie qui apporte le désespoir et les larmes. Les larmes, protestait l'anglais. Certes, le ménage d'Imbleval est démoli et Alice demain pleure. Elle ne pouvait plus rester. Ganimard eut fini par la découvrir, et par elle on remontait jusqu'à Madame d'Imbleval. Tout à fait de votre avis, maître. Mais à qui la faute? Deux hommes passèrent devant eux. Sholmès dit à Lupin, d'une voix dont le timbre semblait légèrement altéré, « Vous savez qui sont ces gentlemen? » « J'ai cru reconnaître le commandant du bateau. Et l'autre? » « J'ignore. » « C'est M. Austin Gillett. Et M. Austin Gillett occupe en Angleterre une situation qui correspond à celle de M. Dudouis, votre chef de la sûreté. »« Ah, quelle chance! Seriez-vous assez aimable pour me présenter? » « Monsieur Dudouis est un de mes bons amis, et je serais heureux d'en pouvoir dire autant de Monsieur Austin Gillett. » Les deux gentlemen reparurent. « Et si je vous prenais au mot, Monsieur Lupin? » dit Sholmès en se levant. Il avait saisi le poignet d'Arsène Lupin et le serrait d'une main de fer. « Pourquoi serrer si fort, maître? Je suis tout prêt à vous suivre. » Il se laissa de fait entraîner sans la moindre résistance. Les deux gentlemen s'éloignaient. Sholmès doubla le pas. Ses ongles pénétraient dans la chair même de Lupin. « Allons, allons » proféra-t-il sourdement dans une sorte de hâte fiévreuse à tout régler le plus vite possible. « Allons, plus vite que cela !» Mais il s'arrêta net. Alice Demain les avait suivis. « Que faites-vous, mademoiselle? C'est inutile, ne venez pas !» Ce fut Lupin qui répondit. « Je vous prie de remarquer, maître, que mademoiselle ne vient pas de son plein gré. Je lui serre le poignet avec une énergie semblable à celle que vous déployez à mon égard. »« Et pourquoi ?»« Comment ? Mais je tiens absolument à la présenter aussi. Son rôle dans l'histoire de la lampe juive est encore plus important que le mien. Complice d'Arsène Lupin, complice de Bresson, elle devra également raconter l'aventure de la baronne d'Imbleval, ce qui intéressera prodigieusement la justice. » Et vous aurez de la sorte poussé votre bienfaisante intervention jusqu'à ses dernières limites, généreux Sholmès. » L'anglais avait lâché le poignet de son prisonnier. Lupin libéra mademoiselle. Ils restèrent quelques secondes immobiles, les uns en face des autres. Puis Sholmès regagna son banc et s'assit. Lupin et la jeune fille reprirent leur place. Un long silence les divisa. Et Lupin dit, « Voyez-vous, maître, quoi que nous fassions, nous ne serons jamais du même bord. Vous êtes d'un côté du fossé, moi de l'autre. On peut se saluer, se tendre la main, converser un moment, mais le fossé est toujours là. Toujours vous serez Herlock Sholmès, détective, et moi Arsène Lupin, cambrioleur. Et toujours Herlock Sholmès obéira, plus ou moins spontanément, avec plus ou moins d'à-propos, à son instinct de détective, qui est de s'acharner après le cambrioleur et de le fourrer dedans, si possible. Et toujours Arsène Lupin sera conséquent avec son âme de cambrioleur en évitant la poigne du détective, et en se moquant de lui si faire se peut. Et cette fois, faire se peut. Ah, ah, ah. Il éclata de rire, un rire narquois, cruel et détestable. Puis soudain grave, il se pencha vers la jeune fille. « Soyez sûre, mademoiselle, que même réduit à la dernière extrémité, je ne vous eusse pas trahi. Arsène Lupin ne trahit jamais, surtout ceux qu'il aime et qu'il admire. Et vous me permettrez de vous dire que j'aime et que j'admire la vaillante et chère créature que vous êtes. » Il tira de son portefeuille une carte de visite, la déchira en deux, en tendit une moitié à la jeune fille, et d'une même voix émue et respectueuse. « Si M. Sholmès ne réussit pas dans ses démarches, mademoiselle, « présentez-vous chez Lady Strongborough, vous trouverez facilement son domicile actuel, et remettez-lui cette moitié de carte, en lui adressant ces deux mots, « souvenir fidèle ».« Lady Strongborough vous sera dévouée comme une sœur. » Merci, dit la jeune fille. J'irai demain chez cette dame. Et maintenant, maître, s'écria Lupin du ton satisfait d'un monsieur qui remplit son devoir, je vous souhaite une bonne nuit. Nous avons une heure encore de traversée. J'en profite. Il s'étendit tout de son long et croisa ses mains derrière sa tête. Le ciel s'était ouvert devant la lune. Autour des étoiles et au ras de la mer, sa clarté radieuse s'épanouissait. Elle flottait dans l'eau et l'immensité où se dissolvaient les derniers nuages semblait lui appartenir. La ligne des côtes se détacha de l'horizon obscur. Des passagers remontèrent. Le pont se couvrit de monde. M. Austin Gillett passa en compagnie de deux individus que Sholmès reconnut pour des agents de la police anglaise. Sur son banc, Lupin dormait. Fin de la section 16. Fin de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
All right, we're all set for the party. I've trimmed the tree, hung the mistletoe, and paired all those weird-shaped knives and forks with the appropriate cheeses. And I plugged in the Bartesian.
Bartesian?
It's a home cocktail maker that makes over 60 premium cocktails, plus a whole lot of seasonal favorites, too. I just got it for 50 off. So, how about a Clozmopolitan or a mistletoe margarita?
I'm thirsty.
Watch. I just pop in a capsule, choose my strength, and...
Wow, it's beginning to feel more seasonal in here already.
If your holiday party doesn't have a bartender, then you become the bartender. Unless you've got a Bartesian, because Bartesian crafts every cocktail perfectly in as little as 30 seconds. And I just got it for $50 off.
'Tis the season to be jollier.
Add some holiday flavor to every celebration with the sleek, sophisticated home cocktail maker, Bartesian. Get $50 off any cocktail maker at bartesian.com/cocktail. That's BARTESIAN.com/cocktail.